Bonjour, bienvenue à La Voix de la librairie, une émission diffusée sur les ondes de CKIA le mercredi à 15h30 et enregistrée le lundi soir à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec, d'où le nom de l'émission La Voix de la librairie. Mon nom est Catherine Doré et je vais vous parler aujourd'hui, en compagnie de mes invités, d'espace public. On va essayer de démêler ensemble de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'espace public. Parce que dans nos sociétés démocratiques et libérales, de plus en plus, tout est public. À partir de nos habitudes personnelles les plus intimes, que l'on dévoile abondamment sur Facebook, jusqu'aux lois adoptées par l'Assemblée nationale, en passant par le salaire des gestionnaires ou par le dévoilement des identités des accidentés de la route au téléjournal télévisé, tout est déballé en public. Alors, quand on parle d'espace public, de quoi parle-t-on? Ça se trouve où, l'espace public? Caroline Brunet va nous éclairer sur cette question en dernière partie. Nous allons parler aussi d'un phénomène propre à la ville de Québec qui se déroule dans l'espace public, plus précisément à la radio, une radio privée diffusée sur les ondes publiques, et je parle bien sûr du phénomène des radios poubelles. Sébastien Bouchard fera le point sur ces radios dites aussi de confrontation en deuxième partie. Mais d'abord, on va débuter l'émission avec Renaud Pilote et ses Renauderies, et qui va nous proposer aujourd'hui une amusante réflexion philosophique sur le thème de l'abreuvoir. Et on va commencer par une pièce musicale pour présenter Renaud, l'homme qui a vu l'homme.
Bon, on va parler des amoureux des bancs publics. Alors, ça commence à parler des parkings un petit peu, puis on va écouter notre ami le moustachu le plus sympathique de l'univers, Georges Brassens.
Merci, et on retourne, on entend l'abreuvoir de Renaud Pilote.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Alors, ma chère Catherine,
oui, Renaud.
Loin de moi l'idée de vouloir me prendre pour Martin Luther King, mais j'ai un rêve. Un rêve un peu particulier, je te l'accorde, mais peut-être tu commences à t'accoutumer à mes excentricités. Ce rêve est celui-ci. C'est celui de la multiplication des abreuvoirs, jusqu'à plus soif. Le rêve d'une ville où on rencontrerait systématiquement, là même où on ne les attendrait pas, des abreuvoirs. En haut comme en bas des escaliers, en dessous des boutons appelant le passage piéton, sur le côté de chaque parcomètre, en guise de couvre-chef aux bornes fontaines. Je ne sais trop où encore, mais comme c'est un rêve qui souhaiterait devenir collectif, j'attendrai vos propositions. Si j'ai ce rêve, c'est probablement parce que la majorité des citadins me semblent avoir grand soif. La bouche pâteuse, ils courent partout, crachent par terre et cherchent à boire les paroles débitées à gros jets par ceux qui mâchent leurs mots, faute d'idées limpides. Les mains encombrées de bouteilles et de canettes, c'est en vain qu'ils espèrent substituer à l'abreuvoir ces facultés désaltérantes, car une fois vides, ces contenants sont bien plus souvent l'objet d'un rejet aux poubelles que celui d'un remplissage. « Nous n'avons pu faire autrement, » me répondent-ils. « Il n'y avait pas d'abreuvoir ou chercher de l'eau. » Je ne leur fais pas dire. Souvent tiède, tantôt opaque, tantôt sablonneuse, quoique toujours buvable, l'eau de l'abreuvoir s'offre à tous et à toute heure du jour, démontrant ainsi son intarissable générosité malgré l'inconstance de son jet malhabile. D'ailleurs, pardonnons-lui ce petit défaut, car après tout, ne vaut-il pas mieux se dispenser de viser juste que de s'astreindre à se retenir et provoquer ainsi un désagréable contact entre nos dents et l'acier de l'abreuvoir? Aussi, je soupçonne mon subconscient de raffoler de cette eau publique au goût légèrement métallique. Comme si diaposer ses lèvres lui permettrait de retrouver la source perdue d'un ruisseau capricieux. J'ai le rêve d'une eau potable que je ne chercherai pas, à l'aquarium comme dans les terrains vagues. Une eau que j'accueillerai à bouche que veux-tu, et qui ne se laisserait pas vendre aux plus offrants, gaspilleurs et autres bois sans soif. Les abreuvoirs sont la preuve que tout cela est possible, que plus ils seront légions autour de nos places publiques, mieux nous éviterons la sécheresse de notre rapport à l'eau, aussi bien qu'à l'autre. Oui, fontaine, nous boirons de votre eau, mais je vous en prie, mademoiselle, abreuvez-vous d'abord. Enfin, si je suis dans le champ avec mon rêve, n'hésitez pas à me réveiller, car l'adage demeure vrai qui dit qu'il n'y a pas pire eau que l'eau qui dort.
Merci. Merci beaucoup. Oui, merci Renaud, merci beaucoup pour cette Renauderie qui, en fait, est beaucoup plus en lien qu'on pensait avec notre thème de l'espace public.
Ça coule de source.
Voilà, ça coule de source. Alors, pour poursuivre et débuter notre réflexion, on a choisi une pièce, L'homme qui ouvre l'homme, qui est une pièce vraiment thématique.
Qui va tout à fait dans le thème.
Oui, c'était oui. Jacques Dutronc.
Oui, c'est notre ami M. Dutronc qui nous a inventé ça dans sa période de faste de belles chansons. Ça s'appelle « Vie privée, domaine public ». Alors, c'est
comme
la seule chanson
bien.
Que j'ai trouvée qui était exactement dans notre thème.
Alors, c'est parfait, on écoute ça.
On savoure ça.
La vie privée, le domaine public, secteur privé, trésor public, chemin privé, secteur public, les places privées, les bancs publics, je ne sais ce qui est en moi, je ne sais plus à quoi j'ai droit. Je perds mon chemin quelquefois. Je ne sais plus ce qui est en moi. Thank you. l'école privée, l'école publique. Les flics privés, les bancs publics. Jardin privé, jardin public. La banque privée, la je ne sais plus ce qu'est à moi. Je ne sais plus à quoi j'ai droit. Je perds mon chemin quelquefois. Je ne sais plus ce qu'est à moi.
Alors, c'était donc une chanson de Jacques Dutronc que je connaissais pas du tout, qui est vraiment tout à fait dans le thème de ce soir, donc de l'espace public. Et pour débuter notre réflexion sur l'espace public, j'ai trouvé dans Philosophie Magazine un petit lexique de quelques mots autour du thème, soit l'intime, le privé, le civil et le public. L'intime, d'abord, désigne ce que j'offre à autrui de mon propre gré. Donc, ce que je peux dissimuler, c'est-à-dire mes pensées secrètes et ma nudité. Tout ce qui, en fait, aujourd'hui est considéré comme inviolable. Donc, même dans ma vie privée, j'ai toujours le droit de fermer la porte de la salle de bain et de ne pas dire tout ce que je ressens et tout ce que je pense. C'est ce qu'on appelle l'intime. Le privé excède le domaine du corps propre et des sentiments intimes pour occuper l'espace du foyer. Alors, chez soi, en famille, entre amis, on est à l'abri du regard extérieur de la société et même parfois des lois. En effet, on peut contrevenir aux bonnes manières et tenir des propos qu'on ne se permettrait pas ailleurs. On va en parler tout à l'heure avec Sébastien Bouchard. Quand on va parler des radios poubelles, on va se rendre compte que le ton adopté à la radio aux radios poubelles, est souvent un ton qu'on pourrait parler de privé. Voilà, ça c'est pour le privé. Maintenant, le civil. Le civil, excusez-moi, mais c'est écrit très petit sur mes feuilles, j'ai la misère à lire. Entre la maison et l'Assemblée, c'est ça. C'est que dans la définition qu'on a ici, le public est considéré comme le politique, l'Assemblée, l'État. Donc, entre le privé, la maison, et l'Assemblée, le politique, il y a, n'est-ce pas, les clubs, les cafés, les associations, les syndicats, les entreprises. Ce sont des réseaux intermédiaires de sociabilité et qui sont apparus avec le développement de l'activité marchande et de l'activité économique. Il s'agit, n'est-ce pas, de la tradition libérale qui intercale entre le privé et la sphère publique, c'est-à-dire l'État, ce qu'on appelle la « civil society ». Et cette définition-là du civil, en fait, correspond assez à la définition d'espace public donnée par Habermas. Habermas nous dit que la sphère publique, c'est un processus au cours duquel le public, constitué par des individus faisant usage de leur raison, s'approprie la sphère publique, contrôlée par l'autorité, et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État. Donc ça, c'est la définition d'Habermas. Ça ressemble un petit peu à la constitution du quatrième pouvoir des médias. Cette sphère publique bourgeoise, en tant qu'espace intermédiaire, donc, entre l'État et la vie privée de chacun, valorise la publicité, c'est-à-dire rendre public des intérêts privés qui cherchent à s'imposer en prenant pour base la raison. Donc, c'est ce qu'on appelle le civil. L'espace public selon la définition d'Habermas. Et finalement, le public, au sens strict, le public, c'est l'État qui garantit et dépasse les groupements d'intérêts. Donc, non seulement l'État empêche les dérives d'une société libérale, mais il assure l'unité du corps politique. La sphère publique, c'est-à-dire l'État, est uniquement motivée par le bien-être général. Je répète pour nos pouvoirs en place en ce moment, pour qu'on s'entende bien sur ce que est l'État, n'est-ce pas? L'État est uniquement motivé par le bien-être général. Si impliqué suppose de mettre ses intérêts économiques et commerciaux et même sa vie privée entre parenthèses. Il faudrait que nos élus, n'est-ce pas, se souviennent de ces définitions-là de l'État. Je voudrais vous proposer aussi une réflexion de Michel Etchaninov dans Philosophie Magazine, un article qui s'appelle « La souveraineté du people ». Alors, il fait une réflexion sur la manière dont le public et le privé est de plus en plus brouillé dans notre vie de tous les jours. Et lui, il part en fait du contrat social de Rousseau. Et ce qu'il nous dit, c'est que dans son contrat social, Rousseau élabore les conditions pour que des individus isolés, tout en ne se soumettant à personne, réussissent à décider de la direction des affaires communes, à accepter une puissance supérieure au désir de l'individu et à obéir à des lois, mais en restant libre. Chacun, se soumettant à la communauté tout entière, transfigurée en volonté générale, donne naissance à un corps politique unifié. Ainsi, l'espace public dépasse-t-il des intérêts particuliers sans les soumettre à une nouvelle domination? La puissance publique, c'est-à-dire moi avec les autres, contraint le moi singulier tout en permettant à l'individualité de se déployer librement. Toujours intéressant de relire Jean-Jacques Rousseau, hein? Cette invention de Rousseau, même si elle a été transformée et édulcorée, demeure à la base de la démocratie moderne. Chaque individu, en s'associant aux autres, allie obéissance et liberté, verticalité et horizontalité. Ce que nous dit Michel Etchaninov dans son article, c'est que ce contrat aujourd'hui est en passe de se rompre sous la pression de l'exhibition, voulue et subie, de l'intime et du privé, pourtant à la source de la modernité. La mise à disposition du public ou de son intimité ou de celle d'autrui brouille totalement l'ancienne distinction entre le privé et le public, lieu privilégié de la politique. Et il nous donne ici un exemple assez amusant. Il nous parle de l'escapade amoureuse de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni en Égypte au moment... Ils ont fait en fait un voyage public en même temps qu'ils ont célébré leur mariage en un seul voyage. Et voici ce qu'il nous en dit. Prenons un exemple récent et très commenté. Une personne privée, devenue femme publique, au sens où le public la connaît, rencontre un homme public, au sens où la nation l'a choisi. Leur liaison est rendue publique. Elle s'exhibe devant les caméras de télévision, dans un lieu public, car n'importe qui a le droit de le fréquenter, mais également privé, puisqu'il est payant et appartient à la société Disney. L'élu du peuple entreprend des voyages privés avec l'élu de son cœur, mais il en profite pour effectuer des visites publiques aux chefs d'État égyptiens ou jordaniens. Bizarrement, alors que des photos du couple en voyage sont rendues publiques, leur mariage est privé d'image. Le président revendique publiquement son droit au bonheur privé. Lors de sa visite d'État en Grande-Bretagne, la presse britannique s'intéresse davantage à la nouvelle Diana, co-déclaration politique. Les journalistes français qui scrutent la vie du président et cherchent à s'immiscer dans sa carte SIM prétendent que ses affaires privées ont une portée publique. Celui-ci entame publiquement une offensive pénale contre le journaliste qui a publié l'information sur le SMS envoyé à son ex-femme. Son épouse, qui n'a pas de lien direct avec cette histoire, propose une tribune publique sur cette affaire privée rendue publique. Alors, vous voyez, il est impossible de démêler par-delà des protestations d'honnêteté la sphère publique des champs intimes et privés. Et ce genre de situation qui est démontrée ici, eh bien, elle est de plus en plus fréquente, comme vous pouvez le constater régulièrement en écoutant les bulletins de nouvelles et en lisant les journaux. Pour terminer sur cette partie, je voudrais vous parler un petit peu plus donc de la définition d'Habermas d'espace public. On en a parlé tout à l'heure, donc Habermas, ça c'est la définition donc symbolique de l'espace public, on parle pas du lieu, là, on parle du quatrième pouvoir ou des médias ou de ce lieu où on peut discuter des choses publiques, c'est-à-dire des choses d'État et politiques. Habermas, je vous le répète, le processus au cours duquel le public, constitué d'individus, faisant usage de leur raison, s'approprie la sphère publique, contrôlée par l'autorité, et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir de l'État. Alors ça, c'est un processus qui est à dater du 18e siècle en Angleterre, le siècle de développement de l'urbanisation et de l'émergence de la notion d'espace privé dans la bourgeoisie des villes. Donc c'est intéressant de voir que la notion d'espace public s'est constituée en même temps que la notion d'espace privé. C'est comme si c'était deux notions qui s'étaient développées un peu en parallèle. Habermas montre comment les réunions de salons et les cafés ont contribué à la multiplication des discussions et des débats politiques, lesquels jouissent d'une publicité par l'intermédiaire des médias de l'époque, donc les relations épistolaires et la presse naissante. Finalement, Habermas nous dit que l'espace public gouverné par la raison est en déclin, puisque la publicité critique laisse peu à peu la place à une publicité de démonstration et de manipulation au service d'intérêts privés. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler avec mon prochain invité. Quand on va parler des radios poubelles, on va comprendre très rapidement que la radio poubelle, en fait, répond tout à fait à cette définition d'une démonstration de manipulation au service d'intérêts privés. Est-ce que David avait des extraits à nous lire? Non, il n'a pas eu le temps. Alors, à ce moment-là, on va passer à la pause. On va écouter une pièce musicale pour la pause des commandites de Sequeia. Qu'est-ce qu'on va entendre, L'homme qui a vu l'homme?
On va entendre The Last Public Hanging in West Virginia. Alors, la dernière pendaison publique en Virginie occidentale, voilà. Alors, c'est de Flat and Scruggs, c'est deux musiciens qu'on appelle de Bluegrass. Et vous allez voir, c'est très intéressant, c'est tout beau.
On écoute ça.
Rock of Ages. Clear for me. Now that could be the voice of John F. Morgan in the Ripley jailhouse singing hymns. Well, old Johnny might just be singing hymns this morning, 'cause this is gonna be a hanging day for him. Now people say that Johnny was a bad man, and that he had a name for being mean. He took a hatchet one cold, very morning. He killed two children and the widow Green. 5,000 people gathered there in Ripley, invited by the sheriff, Joe Shin. Having fun and drinking moonshine liquor, and listening to old Johnny singing hymns. The day dawned cold in Ripley, West Virginia. The scaffold stood in silence in a field. Johnny kept on singing in the jailhouse, waiting there to eat his final meal. Then rumors started flying through the gathering that John F. Morgan might get his reprieve.
The people started yelling for the sheriff, afraid they'd miss what all they'd come to see. But Jay O'Shin, the sheriff of Jackson County, afraid that such a thing could have been done, said, I said there was gonna be a hanging, and I still mean it, there's gonna be one. They led John Morgan from the Ripley jailhouse, and he rode through the happy life and crowd. But when John Morgan stepped up on the scaffold, they grew quiet when he tipped his hat and bowed. They listened to the preacher say the last words. They fixed the noose and tied John Morgan's hand. The signal came and someone sprang the death trap and sent John Morgan to another land. The last public hanging in old West Virginia, a true story written in this song. On the 16th of December in 1897, John L. Morgan paid the price for doing wrong.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait que... entre les doigts, la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger.
Alors, merci, L'homme qui a vu l'homme. C'est une pièce que tu nous as choisie qui est très appropriée pour notre prochain thème. C'est une pièce de Brigitte Fontaine?
Tout à fait, c'est sur son premier album qui s'intitulait justement « Comme à la radio », c'était la pièce titre. Il y a d'ailleurs des très belles choses sur cet album-là où Madame déconstruit évidemment la musique Alors, ben, c'était tout beau. C'était Mme Fontaine.
Merci. On va maintenant parler effectivement de la radio et de la radio poubelle en compagnie de Sébastien Bouchard. Sébastien habite avec sa famille dans le quartier Limoilou. Il est titulaire d'une maîtrise en histoire. Il est aussi chercheur à la Fédération des syndicats de l'enseignement depuis 7 ans. Il représente le parti Québec solidaire dans la circonscription de Jean Lesage et il est impliqué dans plusieurs causes sociales dans son quartier et à Québec. Par ailleurs, il s'intéresse au phénomène des radios poubelles depuis quelques années, mais il nous dira peut-être tout à l'heure pourquoi, avec lesquels, n'est-ce pas, il n'hésite pas à se coltailler parfois directement. Il a publié un article dans Les Nouveaux Cahiers du Socialisme, article paru dans le numéro du printemps 2014, intitulé « La radio poubelle, le populisme de droite en action », article dont on va parler ensemble. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
D'abord, quand on parle de radio poubelle, de quoi on parle? Pourquoi on appelle ça radio poubelle? Est-ce que c'est un titre ironique? Est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt de radio de confrontation ou de radio d'opinion? Pourquoi radio poubelle?
Effectivement, les chercheurs à l'Université Laval, Mme Vincent, M. Turbine, Mme Laforêt, qui se sont penchés sur la question, parlent plutôt de radio de confrontation. Par contre, le terme radio poubelle est un terme qui est reconnu. Même l'Office québécois de la langue française a fait une capsule en 2005 sur le sujet.
Ah oui?
Et en accord avec la réflexion que je mène dans l'article, on associe le terme radio poubelle à des propos orduriers et provocateurs.
Okay.
Et dans ce sens, le Conseil de presse du Québec a, dans les dernières années, condamné de nombreux animateurs de la radio poubelle pour propos méprisants, discriminatoires, manque de respect, atteinte à la dignité humaine, propos haineux, incitation à la violence et propos racistes. C'est donc dans ce cadre-là que je pense qu'on peut parler de radio poubelle.
Ça dépasse la confrontation ou l'opinion, là.
Exactement. C'est vraiment un phénomène à deux niveaux où il y a d'un côté ce qui les caractérise comme radio poubelle, c'est le caractère ordurier et provocateur. Mais par ailleurs, et pour comprendre la radio poubelle de la région de Québec, c'est un phénomène qui est politique. La radio poubelle est un acteur politique qui défend les intérêts, qui influence la population, qui mène des mobilisations, qui influence les élections. Et donc, c'est à la fois une analyse sociopolitique qu'il faut faire en plus d'une analyse de contenu, je dirais même juridique, là, sur l'aspect là, de dépasser la limite par des propos ordurier et provocateur.
On va y revenir tout à l'heure au contenu politique. J'aimerais avoir votre avis sur le phénomène Québec. Je veux dire, en ce sens qu'on ne trouve pas le phénomène des radios poubelles à Trois-Rivières ou à Sherbrooke ou à Sept-Îles. Il y a véritablement un phénomène qui se définit dans la ville de Québec. Pourquoi Québec?
Alors, c'est la grande question du mystère de Québec. Ça, c'est une grande question sociopolitique. J'ai des éléments de réponse. Premièrement, il y a une interaction entre le mystère de Québec et la radio poubelle. Pour moi, c'est le mystère de Québec, c'est pourquoi la droite politique est aussi forte dans la région de Québec.
Okay. Ah, donc on ferait un lien entre la radio poubelle et la droite politique.
C'est une interaction entre ces deux questions. C'est-à-dire que la radio poubelle nourrit la droite dans la région de Québec,
oui.
Mais il y a d'autres causes. Et là, moi, dans l'article que j'ai mené sur la radio poubelle, je réponds en partie à la question du mystère de Québec sur des questions. Et moi, je pense que la droite dans la région de Québec est liée à des questions générationnelles, urbaines et d'histoire politique.
D'accord.
Alors, sur les questions générationnelles, on est dans une région où le tissu industriel est relativement faible et où la fonction publique est plus importante. Ce qui est arrivé dans les années 80, c'est qu'on a mis en place des politiques néolibérales et ces politiques ont cessé la croissance des services publics. On s'est retrouvé donc avec une génération, la génération X, qui n'avait pas ou peu de place dans les emplois de la fonction publique dans une région où les alternatives sont plus rares qu'ailleurs.
Oui.
Alors, on a vraiment un des enjeux, c'est la question générationnelle, c'est-à-dire la génération X. Et d'ailleurs, les auditeurs de Choix FM, c'est Radio X, ce sont oui. Les X, Jeune X, c'est génération X. Alors, et je dirais que Jeff Fillion, dans les années 90, au cœur de son discours, il y avait l'opposition baby-boomer X.
D'accord.
C'est un premier aspect. Alors,
donc, ils ont véritablement visé cette auditoire-là.
Exactement. Mais ça, c'est le renouvellement. Parce que si on prend André Arthur, qui est comme le grand-père de la radio poubelle, si on
oui,
veut,
oui.
Ben, lui, ça a une profondeur plus longue dans le temps. C'est pas donc la question de la génération X qui... donc, ça dépasse la génération X.
Oui.
C'est C'est pour ça que je peux référer à l'histoire politique, par exemple. D'un côté, il y a les grandes régions qui, par exemple, Chaudière-Appalaches ou Portneuf, qui, dans la grande région de Québec, c'est des bastions historiques créditistes. Alors, il y a vraiment un fond de droite populiste dans les régions qui ont mené beaucoup à l'urbanisation de la banlieue de Québec.
D'accord.
Donc, ces régions-là ont une histoire de droite politique. Et au cœur de la Haute-Ville, on peut faire aussi une réflexion sur la bourgeoisie de la ville de Québec, qui est une bourgeoisie qui, dans le temps très long, c'est-à-dire sur les 200 dernières années, est une bourgeoisie coloniale, c'est-à-dire que la bourgeoisie a été liée à la vieille capitale, qui était la capitale de l'Empire britannique en Amérique du Nord pendant une certaine période et qui était une garnison militaire. Donc, la bourgeoisie de la Haute-Ville a aussi une histoire de droite. Alors, on a à la fois rurale avec une histoire de droite, bourgeoisie avec une histoire de droite, les questions générationnelles et la dernière espèce, c'est la question urbaine où la ville de Québec est très fortement une ville de banlieue.
Oui.
Et dans le modèle nord-américain, la banlieue avec des nuances, mais la banlieue est habituellement plus conservatrice, plus à droite et plus développe une vision plus consumériste, disons, de la société. Bon, il y a plein de nuances à faire là-dedans, mais ce sont quatre éléments que j'amène à l'analyse.
Ça ne donne pas une réponse, disons, directe au mystère de Québec, mais ça nous donne des pistes de réflexion pour mieux comprendre le phénomène. Alors, avant de poursuivre sur le contenu politique de la radio, on va faire une pause et écouter des extraits, justement, de Radio Poubelle pour les gens qui, par hasard, n'en auraient jamais entendu, pour que les gens aient une idée de ce à quoi ça ressemble. On va écouter deux extraits, un qui nous parle de Teresa Spence et ensuite une charge en règle contre les femmes et les écolos. On écoute ça.
Teresa Spence réclame toujours une rencontre avec le premier ministre Stephen Harper.
Et si jamais elle décède, elle dit que son esprit continuera à accompagner les siens. Olivier Bachand, Radio-Canada,
Montréal. Ah, c'est donc bien bon. Il prend ça au sérieux, lui-là, le journaliste.
Elle engouffre plus de calories que d'un Big Mac par jour, puis elle essaie de faire croire au monde qu'elle va mourir de faim, puis Radio-Canada fait la promotion de ça.
Il est payé par nos taxes, puis il achète ça, lui, ce pitch-là. Là.
Une tasse de bouillon de poisson comme Teresa Spence prend pour survivre, c'est 700 calories. 700 calories, c'est plus qu'un Big Mac. C'est un régime super size me.
Tu sais, l'histoire de la Pocahontas au double menton qui mange de la soupe et qui nous fait croire qu'elle va mourir.
Sauf que là, on a appris que finalement, c'était pas une grève de la faim. Ça a l'air que c'était une espèce de cure d'amaigrissement. Puis bon, on l'a regardé, on dit, OK, on peut comprendre qu'effectivement, elle sentait le besoin d'aller sur une cure d'amaigrissement. Là, arrêtez de brailler, puis arrêtez de bâcher le gouvernement conservateur, puis dire qu'ils ont pas le cœur à bonne place, puis que la solution, c'est de mettre plus d'argent. Plus d'argent, ça veut dire plus de corruption, puis qu'on remplit encore plus les poches de monde comme Teresa Spence. C'est pas ça qu'on veut.
C'est exactement comme quand on fournit de l'aide à des pays de cul.
Ben
oui,
pour
l'argent.
La grève de la faim est finie, mais moi, je demeure à convaincre.
Merci, Mario.
Hey, penses-tu qu'il y avait des morceaux, des fois, dans le bouillon de poisson? Parce que si t'échappes des morceaux, ça fait une sorte de bouillabaisse.
Revenons aux vraies affaires. Revenons aux luttes féministes. Hier, il y a eu une opération, une action écoféministe à Montréal. Une centaine de femmes qui ont formé un mur.
Un mur?
Pour bloquer l'entrée de la raffinerie Suncor à Montréal.
Un mur de femmes.
Une entreprise qui, imagine-toi, raffine le pétrole des sables bitumineux, l'un des plus sales au monde. Ces femmes-là, ces féministes-là, là, est-ce qu'il y a mieux qu'on achète du pétrole dans les pays musulmans? Là?
Non, c'est mort au pétrole.
Des féministes qui crachent sur le pétrole canadien. Faut le faire. Il est mieux qu'on achète le pétrole au Moyen-Orient? C'est-tu vraiment ça que vous voulez en Arabie Saoudite puis dans d'autres pays où les droits des femmes n'ont pas trop sûr?
Tu veux-tu vraiment raisonner?
Ça n'a pas de sens, ça.
Tu veux-tu vraiment raisonner et négocier avec un mur de femmes?
Ah, mais c'est complètement illogique, Denis. Pense-y, là. Ils crachent sur le pétrole canadien, des féministes.
Oui.
Ils veulent qu'on aille acheter du pétrole. Ouais.
Ben oui.
Ils veulent qu'on aille acheter du pétrole au Moyen-Orient. Pense-y deux secondes, là. Jusqu'à quel point ça n'a aucun sens de poser un geste de ce genre-là.
Voilà. Alors, c'était un extrait, quelques extraits de Razou Poubelle pour les gens. Il y a des gens ici qui ont ri, hein, qui ont trouvé ça drôle. Il y a un ton qui est tellement agressif, qui dépasse tellement le niveau normal de conversation que souvent on en a des rires nerveux. Donc, Sébastien, on a entendu beaucoup de choses là-dessus. On a entendu on a parlé contre les femmes, on a parlé contre les musulmans, on a parlé contre les écolos. Est-ce que ça fait partie des thèmes habituel.
Absolument. Ben, en gros, là, on voit les deux dimensions de la radio poubelle dans les extraits, c'est-à-dire le côté ordurier et provocateur,
oui,
et le côté politique.
Ce côté politique-là, j'ai essayé de l'analyser. Donc, j'ai fait une analyse sociopolitique en regardant c'est quoi les intérêts qui sont défendus par ce discours. La radio poubelle se considère la radio du peuple contre l'élite. Alors, j'ai regardé l'élite, c'est-à-dire le 1% de plus riches qui domine le Canada. J'ai regardé le discours officiel des grandes chambres de commerce, le Conseil canadien des chefs d'entreprise, l'Association des banquiers. Et ce discours-là de l'élite qui domine le pays, c'est un discours que je pourrais caractériser de néolibéral, donc des politiques capitalistes néolibérales, c'est au cœur de leur discours. Il y a aussi des politiques impérialistes et militaristes, donc un soutien aux invasions, par exemple, des États-Unis un peu partout. Une vision de l'économie aussi qui est extractiviste, c'est-à-dire que pour le développement minier, pétrolier et gazier, et donc contre tout ce qui limite là, la destruction de l'environnement par ces industries. C'est une vision qui est appuyée aussi sur le fédéralisme canadien. Et enfin, c'est une vision qui s'oppose au pouvoir et à l'influence des mouvements sociaux. Alors ça, c'est le discours de l'élite. Et lorsqu'on regarde la radio poubelle qui se dit contre l'élite, elle est en conformité totale et intégrale avec ce discours de l'élite qui domine la société. Et même pire, souvent, elle est plus radicale que ce discours de l'élite.
Donc, il y a une cohérence dans ce qu'ils proposent. Au-delà des bouffonneries ou du ton terrible qu'ils adoptent, il y a une cohérence dans les idées.
Absolument. Et je pense que c'est une erreur de penser que c'est des clowns qui disent n'importe quoi pour avoir de la popularité. Il y a vraiment une cohérence. Et ce qui est intéressant, c'est de passer d'un animateur à l'autre et d'une station à l'autre. Là, on a trois grosses stations commerciales, plus certaines petites stations en région que l'on peut caractériser comme radio poubelle. Et ils ont une cohérence sur le discours. Donc, conformité avec le discours du 1%, le plus riche, là, qui avec l'élite financière. Mais en plus de cette conformité-là, pour garder une cohérence, donc pour parler au nom du peuple contre l'élite, il faut qu'ils utilisent un discours politique différent, c'est-à-dire le populisme de droite. Et le populisme de droite, c'est de parler au nom du peuple. Hein? Ils parlent eux, ils parlent au nom de la majorité silencieuse. Mais la majorité silencieuse, sa première caractéristique, c'est le silence.
Oui.
C'est-à-dire que si le monde s'organise dans les syndicats, dans les associations étudiantes, dans les groupes communautaires, ben là, c'est plus la majorité silencieuse. Donc, la majorité, elle doit rester silencieuse pour que les animateurs parlent en leur nom.
Et leur disent quoi penser.
S'ils sont en conformité avec le discours de l'élite financière, ils doivent se battre contre une nouvelle élite qui reforme et qui va prendre différentes formes. Alors, dans mon article, j'ai fait un schéma d'une page qui résume ça, mais...
On conseille aux gens d'aller la consulter. On peut la consulter?
Absolument.
Le schéma, ça vaut vraiment la peine?
Alors, vous avez ça. Si vous allez voir l'article qui se nomme « La radio poubelle, le populisme de droite en action », si vous faites ça sur Google, vous allez tomber dessus.
On va retrouver le tableau.
Et vous allez retrouver le tableau dans l'article aussi. Et donc, on mobilise la population contre les immigrants, les pauvres, les femmes, les syndicats et les autres mouvements sociaux, les artistes, les intellectuels, les urbains, l'État social et les fonctionnaires. Alors, c'est toute une série de boucs émissaires. Dans mon analyse, je regarde sujet par sujet quel discours il emmène pour faire cette mobilisation-là. Mais donc, en résumé, la radio poubelle, c'est, on pourrait dire, des riches payés par des riches pour dire à la classe moyenne que leur problème, c'est les pauvres. C'est donc la mobilisation essayer de mobiliser les travailleurs, les travailleuses pour dire faut baisser les impôts des riches. Hein, mais ils ont une forme, ils ont une manière qui fait qu'ils sont capables de mobiliser concrètement le monde et ils ont organisé dans la région de Québec, dans les 15 dernières années, parfois des mobilisations qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est une force politique, c'est pas seulement un discours.
On a vu ça lors des manifestations pour Jeff Filion. Il y a des milliers de personnes qui sont allées appuyer ces radios-là et ce discours-là. Oui.
Absolument. Le CRTC voulait fermer la radio, donc Choix FM.
Oui.
Et il y a eu une grande mobilisation. Ils ont été même jusqu'à Ottawa. Ici, ça a été une grande mobilisation. Et il faut se rappeler que Jeff Filion, finalement, il y a comme une victoire sur la radio poubelle. Et c'est une femme, Sophie Chiasson, qui a gagné contre lui. Hein. C'est une femme qui, finalement, se faisait dire en ondes qu'elle avait des gros seins. Donc, nécessairement...
Elle était un peu idiote.
Puis c'était probablement à cause de ça qu'elle avait eu son travail. Mais c'était pas une joke comme ça. Là. Ça pouvait durer longtemps et c'était récurrent. Et jusqu'en cours devant les juges, c'est cet argumentaire-là qu'ils ont tenu en essayant de dire que, oh oui, de même pour de vrai. Alors, le juge a eu la bonne idée de donner des amendes très élevées. Et le CRTC aussi a tiré la plug, mais malheureusement, quand la Choix FM a été fermée, disons, par le CRTC, le lendemain, il était racheté par une autre entreprise avec la même équipe, sauf Jeff Fillion, et puis ça l'a continué. Donc, c'est la limite du CRTC qui fait que c'est l'entrepreneur qui est lui-même visé. Mais si l'entrepreneur vend, ben il y en a un autre qui le reprend, puis ça continue.
Quand on dit « ils se sont organisés », ils représentent... De qui parle-t-on? Qui sont ces « ils » Est-ce que ce sont est-ce qu'ils ont un agenda politique? Est-ce que ce sont des gens qui cherchent à transformer la société? Est-ce qu'ils ont des intentions, finalement?
Ben, moi, j'ai le réflexe d'avoir une réflexion plus sociale d'un phénomène politique. C'est-à-dire que c'est assez grand comme phénomène pour dépersonnaliser, même s'il y a des personnalités fortes. On peut parler d'André Arthur, de Jeff Fillion, mais il y en a toute une série. Le matin, il y a Landry, Morex, qui sont à Choix FM. Il y a Sylvain Bouchard, là, qui est au FM 93. Je pourrais en nommer d'autres, mais ils ont certaines nuances entre eux. Je pourrais en parler si ça vous intéresse. Mais globalement, disons qu'il représente la droite populiste, qui est un phénomène nord-américain important, dans un contexte où la population a raison d'être indignée par le fait que depuis 30 ans, la richesse augmente.
Ben oui.
Puis la population ne voit s'appauvrit. Pas cette...
Oui, oui.
La classe moyenne s'appauvrit, les plus pauvres s'appauvrissent, le 1%, les plus riches s'enrichissent. Mais pour détourner cette colère-là, les sociétés ont besoin et mettre en place des personnes avec un discours pour canaliser cette frustration-là. Et si on ne veut pas la canaliser vers ceux qui la causent, cette inégalité-là, donc vers l'élite financière, ben il faut du populisme de droite. Et la radio poubelle joue très bien ce rôle.
Mais alors, ces animateurs, est-ce qu'ils sont eux-mêmes manipulés ou est-ce qu'ils sont méchants? Ou... Comprenez-vous ma question?
Oui, moi, je ne me lancerai pas dans la psychologie de l'animateur de la radio poubelle. Là, c'est vraiment aux limites de mes compétences. Moi, je me concentrerai plus sur le phénomène social, mais quand même dire, Jeff Fillion, quand il est parti...
Parce que vous parlez avec ces gens-là?
Oui, ben je fais une entrevue à peu près par année. Ils me reconnaissaient pas avant. Là, maintenant, ils me reconnaissent non seulement comme un sale gauchiste, mais en plus comme celui qui veut fermer la radio poubelle. Disons que...
Qu'est-ce que vous sentez quand vous parlez avec eux? Est-ce que vous sentez qu'ils cherchent... qu'ils ont véritablement des intentions ou...
Ils ont clairement un discours politique cohérent.
OK.
Et par ailleurs, ils ont un style...
Oui.
Qui fait leur marque. Et plus leur style est provocateur, plus ils vont aller chercher du monde. Alors, c'est dans ce cadre-là, avec un discours cohérent, avec un style provocateur, qu'ils recrutent. Et s'il y en a un qui part, j'ai donné l'exemple de Jeff Fillion, mais il y en a deux autres qui rentrent. Alors, disons, la bourgeoisie de la région de Québec fait des annonces dans ces radios-là, et donc, il y a un appui tacite des entreprises de la région à ces radios-là. Alors, pourquoi pas continuer? Et je dirais qu'en opposition à ça, c'est en partie aussi la faiblesse de la gauche dans la région qui laisse place à eux. Parce que si la gauche était plus forte, il y aurait un discours et des lieux où, toutes les pensées négatives et oui. de la population oui, oui. pourraient être canalisées vers quelque chose de plus constructif.
Ça ferait partie de la solution. On en parlera tout à l'heure, mais il y a un autre aspect dont j'aimerais parler avec vous, c'est l'impact social de ces radios-là sur le comportement de la société et des gens. Si c'est possible d'écouter peut-être un autre extrait où on voit, après un appel à boycotter les vélos, qu'on voit qu'il y a un impact direct sur un événement. On écoute.
Let's honk a cyclist. Because today cyclists are a pain in the ass. Pas donner un coup de roue, pas quelque chose de violent, quelque chose de sympathique. Si on passait à côté des cyclistes, juste le saluer. Juste un petit salut avec un genre de bon klaxon viril, un genre de klaxon de Dodge Ram.
Ouais, hey, j'en ai vu un matin, puis j'ai fait, mais comme que t'as dit là, j'ai sorti mon petit klaxon, mais t'entends tout en ce moment.
Yes!
Ah, il est bon.
Mais moi, je veux un klaxon en direct en passant à côté d'un cycliste. Bon, à live, salut!
Ouais, c'est ça. Il y en a un qui se promène aussi là, sur Laurier. Il est en plein milieu, il son beau petit dossard. Hein? Il est super cute, oui.
Il est tellement intelligent. L'as-tu klaxonné?
Ouais, j'ai pas assez proche, assez, mais bon, je me suis dit, écoute, il doit avoir assez de misère là-même.
La clé... Ah, t'es trop bon gars, toi. Avez-vous vu des vélos avec des remorques d'enfants? Tu sais, je viens de changer ma twist, là. Et si oui, ben vous allez leur parler. Vous bloquez la voix, vous allez leur parler. Ça n'a aucun espèce de bon sens, là. Ça n'a aucun sens.
Michel Charrette est accusé de menace de mort, voie de fait, méfait et d'avoir refusé d'obéir à un policier. Alors qu'il était au volant, l'homme de 59 ans aurait talonné et invectivé deux cyclistes parce qu'ils auraient mal fait leur arrêt obligatoire. Sandra Dion, de la police de Québec.
Le cycliste aurait juste eu le temps de pouvoir descendre de son vélo et le véhicule aurait frappé le vélo qui se trouvait au sol.
Jean-François Nadeau, du Canada, Québec.
Alors, ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait, ce qu'on conclut, c'est que les appels à la violence et les campagnes menées par les radios poubelles ont des impacts réels dans la société. Il y a des gens qui écoutent et qui suivent ces indications-là. Et là, il y a une dérive fasciste, non?
Ben, disons que, d'un côté, les appels à la menace sont assez récurrents. On voit ici les cyclistes, on a fait la même chose avec les chauffeurs d'autobus qui utilisent les voies réservées, des appels contre les mobilisations, particulièrement les mobilisations étudiantes où on appelle les auditeurs à aller à agir concrètement contre les étudiants, puis là agir concrètement, c'est-à-dire aller leur botter le cul, oui. Hein, c'est de oui. Ça qu'on parle. Et ça va aller plus loin avec d'un côté des poursuites comme par exemple l'année passée, il y a Choix FM donc l'entreprise Radio Nord Communication qui a poursuivi deux personnes qui étaient associées sans que ça soit eux là à un Facebook contre la radio poubelle et on a mis 250 000 $ de poursuite sur chacune des personnes. Il y en a un des deux que le directeur de la radio a appelé son patron, il l'a fait mettre à la porte de Desjardins et il s'est fait briser sa vitre et sa porte. Ça s'est passé là il y a 2 ans. Et parce qu'ils osaient là remettre en question la radio poubelle et leurs annonceurs. Mm-hmm. Mais d'un coup, vous posez la question du fascisme.
Oui.
Moi, je pense qu'une analyse politique doit réfléchir sur la droite populiste dans ces termes. Et je ne pense pas que c'est un mouvement fasciste. Par contre, il y a eu 2 événements dans la région de Québec où la question du fascisme s'est posée. Et dans ces 2 événements, les deux animateurs des 2 principales stations ont pris position pour défendre ces mouvements-là. C'est-à-dire, okay. D'un côté, un groupe de musique qui s'appelle Légitime Violence.
Oui.
Et qui, donc, est un groupe fasciste, donc, qui se réfère aux nazis, aux Hitler, ah oui. Les camps de concentration et tout ça. Et ils ont été défendus par la radio poubelle, par des animateurs qui les ont même invités en ondes pour défendre leur cause en disant « liberté d'expression ».
Oui.
Et d'un autre côté...
C'est beau, la liberté d'expression.
Oui, oui, la liberté d'expression.
Elle le dos très large.
Oui, oui, on s'entend que la liberté d'expression, c'était pour eux, mais c'est, par exemple, d'autres groupes, comme des groupes comme... certains groupes anarchistes qui ont une autre vision, ben eux, il y avait pas si on regarde la comparaison du discours de la radio poubelle, ben eux, il y avait pas le droit
à leur liberté d'expression. Ils appellent à la censure parfois.
Ah oui, absolument. Ah, oui. Alors on voit vraiment qu'il y a appel à la censure si le groupe est à gauche, mais si c'est un groupe de musique fasciste, on le défend. Et ce que je vous dis là, c'est facile de retrouver ça sur YouTube. Les extraits sont tous là. Un autre moment, ça a été lorsqu'il y a un haut fonctionnaire qui a publié une lettre dans Le Soleil qui faisait appel aux milices fascistes des années 30 pour se battre contre les étudiants. Le Soleil l'a publié, mais l'a tout de suite retiré. Et les animateurs de la radio poubelle ont dit que c'était tout à fait légitime, liberté d'expression, il fallait... Alors, on se retrouve donc avec un mouvement qui est pas fasciste, parce qu'un mouvement fasciste, c'est lorsqu'il y a une crise sociale et qu'il y a des conditions de milices violentes, on peut pas comparer...
Mais cette radio-là laisse place à cette possibilité-là, dans le fond. Elle prépare le terrain à cette possibilité-là.
Moi, j'émettrais l'hypothèse que si on traversait une crise majeure, la radio poubelle serait le moteur principal de ce qui pourrait aller vers une dérive fasciste. C'est une hypothèse qui peut pas être vérifiée parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. Mais si on fait une analyse du discours et de la pratique, c'est un phénomène qui est dangereux. Par contre, je vais faire 2 nuances qui sont très importantes, selon moi. D'un côté, les auditeurs de la radio poubelle, c'est tout un spectre de personnes qui va de la personne qui est totalement d'accord avec la personne qui trouve que c'est un peu des clowns, puis qui trouve qu'il n'y a rien de mieux, puis qui les écoute parce que c'est ça qu'il y a à Québec. Alors, il y a vraiment tout un... c'est pas un bloc, les auditeurs, ça serait vraiment une erreur de penser ça.
Mais il reste que cette radio-là représente un danger pour les gens qui ont l'esprit plus fragile, ont moins de moyens de se défendre et qui embarquent, on l'a vu tout à l'heure dans l'extrait, dans ces appels-là à l'incivisme. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre des gens qui font la promotion de la violence, de l'insulte et de l'humiliation comme mode d'échange entre les humains? Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Il y a deux niveaux de... Ben, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, on va y aller par le plus individuel, c'est-à-dire faire des plaintes au conseil de presse, au CRTC, pour dénoncer les propos méprisants, haineux et discriminatoires. Alors, c'est des choses qui ont une valeur. Particulièrement pour le CRTC, lorsqu'il vient renouveler une licence, parce que les ondes, c'est des ondes publiques.
Publiques.
C'est pas à eux.
Voilà, c'est ça. Ce sont des radios privées qui sont diffusées sur les ondes publiques.
Exactement. Votre analyse, votre introduction était très bonne. Et c'est un droit, c'est pas un droit, c'est un privilège d'avoir accès à ces ondes. Donc, faire des plaintes peut avoir un effet. Deuxièmement, je pense, moi, que la meilleure façon de lutter contre ces radios-là, c'est par une prise de conscience, un discours, une analyse qui montre c'est quoi les intérêts qu'ils défendent. Et parler au monde qui l'écoute en disant « Mais là, je sais pas moi, les paradis fiscaux, où est-ce qu'il y a des milliards qui sont cachés puis qu'il y a des riches qui payent pas d'impôts, mais ça, ils en parlent pas à la radio poubelle. Pourquoi? Parce que là, ils parlent qu'il faut couper dans l'aide sociale, couper dans la culture, couper dans la santé, couper... »
Il va falloir qu'on conclue là-dessus, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, on se souhaite une radio ou qui fasse valoir d'autres intérêts que les intérêts néolibéraux et qui adopte aussi un autre niveau de discours.
Ben, vous le faites très bien, je vous remercie.
Merci beaucoup, Sébastien Bouchard. Je vous invite à consulter encore une fois son article, Le nouveau cahier du socialisme, le numéro de printemps 2014, mais le titre de l'article, encore une fois.
La radio poubelle, le populisme de droite en action.
Merci beaucoup, Sébastien Bouchard.
Bonne soirée.
On va faire une pause musicale et on va revenir avec un aspect de l'espace public, disons, plus concret. On va parler donc des lieux publics avec Caroline Bolduc.
Puis, il y a des lieux publics, par exemple, comme les centres d'achat, ou même sur la rue principale, il y a beaucoup de lieux publics. Alors, on va écouter les colocs.
Dans ma petite ville, on était jusqu'à 1000, puis la rue principale, ça fait s'insérer. La coop, le gaz mort, la casse pop, le croque mort. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh! L'autre jour, j'ai amené ma bien-aimée pour y montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me voilà en bourgeois Albert. Ça avait l'air de Val-Jalbert. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, ah! Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Ah! Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Des petits culs en vaisselle, des cousines en visite. Ça noir de monde comme en Afrique. Quand j'y retourne, c'est pathétique. Ça va donc bien mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit la McDonald's. Oh. Ils sont plus rien que 3000, puis la rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi, et le modèle est démoli. Quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Oh, oh! Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Ha!
petite ville, on était jusqu'à 1000. Puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz mort, le caisse-pop, le croque mort. Et le magasin général, là, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale. Depuis qu'ils ont construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Es-tu là?
Alors, c'était les colocs. Merci beaucoup, l'homme qui a vu l'homme. C'est extrêmement bien choisi comme pièce pour qu'on puisse parler des lieux publics. Je suis allée chercher sur Wikipédia quelques petites définitions pour nous mettre dans le thème. Sur Wiki, on nous dit que l'espace public représente dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui est à l'usage de tous, soit qui n'appartient à personne, en droit par exemple, ou soit qui relève du domaine public ou exceptionnellement du domaine privé. La définition générale ci-dessus implique un état de droit qui garantisse droits et libertés des citoyens dans le domaine public. L'espace public et les usages d'opposer à l'espace public, on oppose les espaces privés, n'est-ce pas, où une clôture doit être franchie et où l'anonymat doit être levé. On oppose aussi à espace public un espace où toujours une clôture doit être franchie, mais dans le sens de porte, grille, accès, qui accueille le public anonyme sous conditions, c'est-à-dire prix d'entrée, règlement d'ordre intérieur, tels que café, restaurant, théâtre, parc d'attractions, centre commercial, etc. Néanmoins, il s'est opéré depuis quelques décennies un brouillage des limites entre espace public et espace privé sous l'effet de divers processus de privatisation. Les centres commerciaux, espaces de statut privé mais d'usage public, sont les exemples les plus emblématiques de cette évolution. Mais on observe également diverses formes de privatisation de l'espace public traditionnel qui consistent à privatiser la gestion de certaines rues au centre des villes. Et on a une spécialiste de la question ici, Caroline Bolduc, qui s'intéresse à la dimension symbolique du rapport à l'espace et à l'architecture dans les lieux publics depuis plusieurs années. Et à l'automne 2013, elle a notamment fait une mise en architecture de son recueil de poésie, Géométrie des espaces, sur les toits du Musée de la civilisation, musée pour lequel elle travaille depuis 10 ans. Et Caroline effectue actuellement des études de deuxième cycle en anthropologie à l'Université Laval, où elle s'intéresse aux représentations et aux pratiques de l'espace public, plus particulièrement chez les résidents du quartier Limoilou. Bonjour Caroline, bienvenue.
Merci, bonjour Catherine.
Alors, pour débuter notre conversation sur l'espace public, j'aimerais que vous me parliez des premiers usages du concept chez les professionnels de l'urbain. Donc, c'est dans les années 60-70 qu'on a commencé à parler d'espace public en urbanisme.
Exactement, on a commencé à parler d'espace qui était, pas bon, on faisait référence par exemple aux rues, aux trottoirs, aux espaces finalement qui, par la circulation automobile, avec l'urbanisme fonctionnaliste, là, où on abordait un peu la ville comme un gros système, ou un peu à la manière de Le Corbusier, là, c'est-à-dire la ville comme espace à circuler, si on veut, là, comme machine à circuler. Alors, la voiture qui prend toute la place au détriment des rues et des places. Oui. Ça commence un peu par cette espèce de dénonciation, finalement, du dépérissement des rues et des places. Mais le mot espace public n'est pas encore nécessairement collé dans les années 60. Par contre, dans les années 70, là, on va commencer à nommer ces lieux-là comme étant l'espace public et on va commencer à donner une certaine définition, là, surtout au niveau de la géographie là, et en urbanisme, en parlant de ces espaces verts, par exemple, les rues, les places. Et là, la liste peut être très, très longue. On pouvait les diviser en espaces verts, en espaces minéraux, en espaces... Bon, il y avait toutes sortes de catégories, mais on va commencer à donner des définitions important dans les années 80. Mais dans les années 70, le terme espace public apparaît, mais il y a tout un idéal démocratique derrière aussi. Hein. C'est là qu'on voit les lieux tels que les forums, les agoras, commencer à apparaître aussi là, dans l'espace urbain. Là. On peut penser à l'agora, d'ailleurs, du Vieux-Port, oui. qui date sensiblement là, de cette période-là.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est la nomination des routes, le rôle de la voiture là-dedans, en fait. C'est que la rue a tout de suite été considérée comme un espace public en opposition à la place publique?
C'est pas aussi tranché. C'est-à-dire que, suite à la Deuxième Guerre mondiale, on est confronté à différents enjeux dans les villes. C'est-à-dire qu'il y a un entassement encore plus présent. On entre dans la modernité, là, donc il y a une forme de démocratisation de l'accès à la voiture. Et un peu, comme vous l'évoquiez tantôt d'ailleurs, là, le côté privé se développe aussi. La notion de privé et du privé se développe parallèlement à la dimension de public. Hein. Donc, s'il y a cet idéal démocratique, en parallèle, on a aussi cet idéal d'accès au privé, d'accès à sa voiture. Et la voiture vient amplifier cette dimension privée qui circule dans le public.
Oui, c'est très intéressant quand on pense à ça, hein, parce qu'effectivement, la voiture, c'est un espace privé.
Exactement. Puis on déambule, puis on peut être complètement seul sans avoir de contact avec les autres en circulant. On a un peu le même phénomène dans l'architecture aussi moderne. Si, par exemple, on regarde le verre, le fer, le fait justement d'avoir ces cloisons transparentes où on a accès à l'extérieur sans avoir de contact avec l'extérieur ou avec l'autre.
Oui.
Donc, il y a
on voit l'autre, mais on n'est pas en contact avec l'autre.
On n'est pas en nécessité d'être en contact. Alors qu'à une certaine époque, les interactions étaient un peu moins organisées. Et disons que les technologies de l'époque n'amenaient pas nécessairement à fragmenter comme ça le privé et le public. Mais il y a il y a une série de nuances qu'on pourrait ajouter là-dedans. Là, lorsqu'on fait l'histoire de l'architecture ou l'histoire de l'urbanisme à partir justement de la révolution industrielle, là, il y a une multitude de nuances, il y a une multitude de petits détails là, qui mériteraient d'être ajoutés. Là,
mais il reste que la frontière entre le privé et le public était beaucoup plus claire avant le mouvement Le Corbusier. Là.
Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est ce que beaucoup la sociologie, par exemple, de l'école un petit peu française avec Henri Lefebvre va décrier finalement dans les années 70. C'est-à-dire, s'il y a une crise dans les villes, c'est justement parce qu'il y a eu cet urbanisme fonctionnaliste où on a fait une division des espaces, une fragmentation des espaces par leur fonction. C'est-à-dire, voici l'espace où avoir vos loisirs, voici l'espace où circuler, l'espace pour le travail, l'espace pour l'habitation. Tout est fragmenté, tout est morcelé et tout est ordonné. Donc, et c'est un peu le reproche là, qui est fait à l'architecture fonctionnaliste. On en vit encore beaucoup les conséquences.
Oui,
là.
Tout à fait.
Il y a combien de quartiers urbains ont été littéralement divisés ou même, comment on pourrait dire, rasés en partie pour mettre les piliers.
Pour placer les autoroutes.
Exactement, exactement.
Est-ce qu'il existe une définition claire de l'espace public?
Il existe un nombre assez impressionnant de définitions pour espace public. En fait, j'aurais envie de vous proposer peut-être une définition qui, aujourd'hui, me semble permettre un peu plus de réflexion, parce qu'on parle beaucoup en privé, public, avec les nouveaux médias, le cellulaire, l'Internet sans fil. On assiste aussi à un espace public 2.0. Là.
Okay.
C'est-à-dire que le brouillage entre ce qui est privé et ce qui est public. Bientôt, j'ai bien l'impression que le mot privé et public
vont devenir
on va devoir trouver
inadéquat,
peut-être
oui,
on va peut-être devoir trouver une autre expression pour sortir de ce binôme là qui devient à un moment donné un peu contraignant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui dans ce qui est même espace public physique, il y a de plus en plus d'immatériel. Il y a de plus en plus de virtuel et il y a de plus en plus d'idéal qui circulent par ce biais-là aussi. Ce qui fait que c'est plus aussi marqué que, par exemple, idéal et physique. Par exemple, Habermas, donc, est plus
symbolique
ou communicationnel. Moi, j'aurais tendance à le dire communicationnel. Et puis, les espaces physiques, qu'on dirait, les espaces publics qu'on dirait physiques, là. C'est plus aussi tranché, ça s'entrecroise. Et bon, j'aurais envie de vous proposer, en fait, ce que le philosophe Paco proposait un peu comme définition, c'est-à-dire l'espace public physique comme idéal est un espace de circulation réelle, donc des gens, des marchandises, des capitaux, et symbolique, idées, sentiments, impressions, où le public, de ses usages et pratiques, participe aux transformations de la vie politique et des relations sociales. Donc, en abordant, par exemple, l'espace public comme un espace de circulation, eh bien, à ce moment-là, c'est différent comme manière, parce qu'on s'aperçoit que le matériel n'est pas que matériel, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'idéologies qui circulent là-dedans. Là. L'urbanisme fonctionnaliste en est un bel exemple.
Oui.
C'est véritablement, oui, la modernité, mais c'est tout un, c'est le marché qui vient prendre l'initiative de l'aménagement des espaces. Donc, ça nous amène... D'ailleurs, j'étais très contente d'entendre le centre d'achat tantôt, parce
oui,
que...
Oui, oui, tout à fait. C'est un lieu public qui a eu beaucoup de vécu, nous aussi, dans l'imaginaire actuel de la culture des gens. Le magasin, c'est l'espace public idéal.
Ben, en fait,
qui est en fait un espace privé.
Et oui, qui est en fait l'espace public le plus fréquenté.
Oui.
Au détriment de certains espaces qui, à une certaine époque, étaient très oui. politiques aussi. Là.
On dit parfois que ça a remplacé le parvis de l'église. Le centre d'achat.
Oui, par contre, la différence que j'ajouterais peut-être, c'est que c'est très, très homogène, sécurisé, et c'est fait pour demeurer homogène. C'est ça qui... et on va de plus en plus faire ces lieux d'exclusion. Puis d'ailleurs, si on regarde juste l'espace public, les lieux de... Avant même l'émergence du concept, là, tous les lieux où il pouvait y avoir circulation. Il y a toujours eu exclusion. Mais lorsqu'on regarde dans les fils, dans le fil du temps, dans la chronologie, on peut s'apercevoir, par exemple, au 19e siècle, bon, les luttes ouvrières, par exemple. Après ça, plus on avance, le mouvement noir. Après ça, le mouvement féministe. Bon, après ça, le marxisme, mais tout ça, là, comment je pourrais dire, exacerber certaines luttes dans l'espace. Bon, oui. On peut ajouter les mouvements bon, LGBT, par exemple, aussi. Et aujourd'hui, l'exclusion, ce qui est beaucoup décrié et qui est très, très fouillé là, actuellement dans les sciences sociales, c'est la notion d'exclusion du sans-abri. Et le sans-abri, c'est celui qui est sans privé. Il n'a pas de privé. Et c'est très, très intéressant de jongler un peu avec cette idée-là, là, finalement,
donc,
que l'exclut.
C'est celui qui est exclu des espaces publics.
Celui qui est exclu, oui. Oui, oui. Puis littéralement, même en urbanisme, il y a toutes sortes de procédés pour, dans l'aménagement de certains espaces. Et d'ailleurs, je vous invite à faire l'expérience sur les fameux bancs publics. Là.
Oui.
C'est conçu pour qu'on soit confortable un certain laps de temps. Et c'est conçu pour être confortable en position assise. Si vous essayez, vous pourrez tenter l'expérience. Là. Après quelques minutes, étendu sur un banc public, vous allez vous apercevoir des inconforts et c'est conçu de cette façon-là. Pour ne pas qu'il y ait, par exemple, d'itinérance, bon, on va aller même dans le design urbain modifier la forme du banc pour empêcher une certaine occupation plus longue. L'éclairage, la végétation viendra pas obstruer non plus la vision à différents points de vue. Le parc Saint-Roch, d'ailleurs, est un magnifique exemple. Hein. Ça a été une grande réussite. On peut voir de tous les axes finalement qui est à l'intérieur tout en ayant des espaces où c'est plus convivial, un peu plus intime, mais en même temps, on peut assurer une surveillance sans problème.
Mais si je comprends bien ce que vous m'expliquez, c'est que les espaces publics, qui sont en théorie des espaces de liberté, puisqu'ils n'appartiennent à personne, c'est des endroits où on peut circuler et faire ce qu'on veut, deviennent de plus en plus réglementés.
Oui, exactement.
Et restent publics. Ce n'est pas des endroits privés, mais on les réglemente de manière à empêcher la liberté.
On vient ornement, oui, exactement. Ben, empêcher la liberté. C'est toujours au nom de la liberté individuelle qu'on vient aller mettre cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est toujours pour, dans le but de votre sécurité, dans le but, bon, de votre circulation. On est toujours dans cette défense-là et sous ces principes-là. Quoique, encore une fois, il y a des nuances à ajouter, hein. Il y a tout un pan de l'urbanisme actuellement qui réfléchit à ça parce que c'est très questionnant, parce que dès l'instant où on cherche à légiférer, planifier toutes les interactions dans l'espace public, eh bien là, il y a des glissements très dangereux qui sont possibles aussi, parce que l'espace public est supposé être aussi l'endroit de l'expression collective d'un désaccord.
Oh, là, on vient de toucher un point, là.
Et ça, c'est un enjeu actuellement parce que...
Tout à fait, avec les manifestations étudiantes, etc., puis il y a une bonne part de la population qui considère qu'effectivement, les espaces publics ne sont pas un lieu de contestation et d'expression de son mécontentement.
Effectivement, c'est de plus en plus même criminalisé.
Oui.
Et ça, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant parce que c'est un espace qui... bon, on parlait d'ordre. C'est un espace qui, normalement, lorsqu'on le considère d'un point de vue démocratique, et je le dis bien entre guillemets parce que la démocratie elle-même mériterait probablement une très bonne réflexion. En ce moment, c'est une belle boîte noire, là, au même titre que l'espace public est une boîte noire aussi.
Oui.
Mais si on donne une dimension politique à l'espace public, à ce moment-là, c'est l'espace où les interactions hétérogènes, non pas d'un public homogène, pourraient se produire et où, normalement, on peut créer du désordre pour que le politique s'organise. Or, si on vient tout ordonner, tout placer, tout planifier, y compris la planification des types d'interactions, il y a des dangers de glissement. Parce que là, à ce moment-là, bien, on vient tellement tout réglementer que d'aller exprimer un désaccord, eh bien là, passer un nombre d'individus, passer dans certaines rues devient criminel. C'est d'ailleurs d'actualité en ce moment énormément. Là,
et plus on est dans des villes, plus on est dans des lieux habités, plus cette réglementation-là prend de l'espace et se développe, en fait.
Exactement. Puis c'est tout un imaginaire de mise en ordre hein, qui s'est développé, ça, depuis le 19e siècle. Cette idée que par la rationalité, on pourrait en venir à bien comprendre tous les paramètres et à régler tous les problèmes vécus en ville. Parce que c'est un imaginaire qui apparaît finalement avec la Révolution industrielle, ça. C'est intéressant parce que la révolution industrielle amène du désordre dans les villes. Et cette notion de désordre-là, c'est-à-dire de la pollution, de l'entassement, et là, subitement, on est confronté à des nouveaux enjeux, les vieux référents culturels ou traditionnels sont secoués, là. La société est ébranlée. Alors là, on est à la recherche d'une mise en ordre. C'est le siècle de la rationalité, tout l'émergence des sciences. Oui. Et c'est là que, dans l'espace, on se dit, ben voilà, par la rationalité, on pourrait peut-être être capable de régler les maux de nos sociétés. Et c'est là que, dans l'aménagement des espaces, au départ, c'est des généralistes qui vont faire ça. Et c'est là que l'espace urbain demeure quand même relativement politique. C'est-à-dire que ce sont des médecins, vous allez avoir des politiciens, bon, des économistes, qui vont réfléchir à la manière d'aménager les espaces de la ville, mais dans un but, finalement, tout en considérant, finalement, les structures sociales et les structures politiques. Or, il y a un glissement qui va se passer. À un certain moment, on va avoir des experts de la mise en ordre de l'espace urbain. Et ces experts-là, bon, c'est certain que là, j'ai l'air de vous présenter les urbanistes comme des bêtes épouvantables, mais il y a des urbanistes qui sont très créatifs.
Oui,
il y a
des, tout à fait.
Ça demande
si
des nuances.
On a le temps d'en parler tout à l'heure. Il y a des initiatives intéressantes aussi au centre. Mais je veux terminer sur ce point-là.
Oui.
Dans la mise en ordre, le rôle de l'automobile dans la mise en ordre des centres-villes et des milieux urbains, c'est fondamental.
Ben, c'est tous les espaces de circulation. Alors, c'est véritablement ça qui va se produire après la Deuxième Guerre mondiale.
Mais la mise en ordre n'aura pas été, en fait, commandée par ça?
Imposée, en fait, par le mode de production. Et la circulation et le déplacement devenaient un enjeu. Oui. Mais et c'est d'ailleurs un peu ce qu'Henri Lefebvre amène dans sa manière d'aborder l'aménagement des espaces comme un processus, c'est-à-dire que c'est faux de penser que ce qu'un peu l'urbaniste fonctionnaliste croyait, c'est-à-dire voici on aménage ça de telle façon et on a une finalité prévisible, alors que la ville c'est un processus. Oui. C'est un processus qui a changé dans le temps selon les modes de production. Ça, c'est la vision d'Henri Lefebvre. Alors, pour répondre à votre question, j'aurais tendance à dire que c'est le mode de production qui va imposer cette transformation de la ville pour permettre la circulation d'un point A à un point B pour le travail. C'est principalement ça. Le travail, bon, on s'entend aussi la consommation parce que, bon, ce mode de production-là nécessite ça aussi.
Oui, j'imagine que ces spécialistes-là de l'ordre et de la circulation, ils ont des gros problèmes en ce moment parce qu'on a beau penser de nouvelles infrastructures, il n'y a plus rien qui fonctionne là. Mais pour parler des urbanismes qui font de belles initiatives, j'ai vu ça passer dernièrement à New York, dans des grands centres urbains où on essaie de réinstaller en plein centre-ville des espaces verts avec des bancs, avec des endroits où on a l'impression que la population peut reprendre droit sur l'espace.
Il y a un changement de perspective. C'est-à-dire qu'avant, comme je le disais un peu tout à l'heure, on voyait la ville comme un système, comme une espèce de grand appareil là où chaque partie de la ville pourrait correspondre à la limite à un organe, là, c'est-à-dire les poumons de la ville, les grands artères, même notre vocabulaire. Encore aujourd'hui, quand on dit les grands artères, on reste encore un peu imprégné de ça.
Oui, c'est très
anthropomorphiste. Oui. Puis, du côté de la Norvège en ce moment, il y a un architecte, ça fait à peu près une cinquantaine d'années, je crois qu'il est architecte et pas urbaniste, mais bon, là, à un certain moment, ça finit par s'entrecroiser, là, il y a des articulations communes. Mais en Norvège, il s'appelle Jan Gehl, ma prononciation...
Norvégienne n'est pas...
et peut-être pas tout à fait à point, mais il y a un glissement au sens où on quitte la structure pour glisser vers l'échelle humaine. Donc, on retourne à l'acteur piéton. Qui avait perdu finalement de son agencéité là, dans les années 60, 70, 80, même avec la voiture.
Oui, on voit beaucoup des rues de partage piétons et voitures et vélos. C'est très, 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 très à la mode en ce moment.
C'est comme si on redonnait le pouvoir aux piétons, aux cyclistes, d'être un acteur. Alors qu'à une certaine époque, c'était finalement le piéton qui devait, et les automobilistes aussi, là. Oui. Tout le monde devait s'adapter à la dimension matérielle. Tout le monde devait circuler, mais on avait réfléchi aux espaces, puis il fallait s'adapter à ça. Alors que maintenant, il y a une inversion, c'est-à-dire qu'on retourne à l'échelle humaine, et même la hauteur des bâtiments, là. Il y a des études en ce moment qui sont faites, à savoir le piéton qui passe en bas quand il lève la tête pour regarder l'édifice versus même la personne qui est en haut. Il y a toutes sortes d'études pour voir, pour garder la dimension humaine, pour qu'il puisse y avoir des contacts visuels. Vraiment, là, c'est un certain pourcentage de verdure sur une certaine superficie.
On recrée du désordre, ce faisant.
J'aurais peut-être un bémol à mettre là.
Parce que quand on mélange voiture et piéton, on sait pas qui doit passer. Juste ici, là, dans la rue Sainte-Claire, là, continuellement, quand la voiture arrive, elle attend parce qu'il y a des piétons. Alors, il y a une espèce de désordre qui se recrée.
Oui, c'est un désordre, mais qui demeure quand même planifié. Dans une certaine mesure. Mais effectivement, il y a toute une culture de l'automobiliste aussi, et même une culture du cycliste. Hein, les comportements sont pas parfaits ni d'un côté ni de l'autre aussi. Là, il y a un apprentissage à faire dans cette cohabitation là, parce qu'on transporte avec nous aussi, veut pas une certaine culture par rapport à ces espaces de circulation là. Il y a toute une éducation, je pense, à faire mutuellement dans cette cohabitation là. Donc du désordre, mais qui peut être très constructif. Donc
Et donc, c'est crédible qu'on arrive dans les centres-villes très, très populeux, de créer des espaces comme ça de liberté?
Je vous dirais que pour l'instant, on est dans des espérances. Il y a des essais, beaucoup d'expérimentations pour essayer d'éviter aussi de désincarner une initiative d'une réalité, puis que ça puisse pas évoluer dans le temps. Il y a de plus en plus d'approches de participatives, collaboratives, l'usage du web aussi pour consulter dans certaines villes aussi. Mais c'est encore au stade davantage exploratoire, là. Mm. C'est-à-dire que parfois, il y a un écart entre... l'initiative et la manière dont c'est vécu, puis la manière finalement dont on s'imprègne et on vit avec ces espaces-là. Parce que forcément, il y a pas que la dimension, tantôt comme je le disais un peu, il y a pas que la dimension matérielle. Hein. Il y a nos pratiques, nos usages. C'est à la fois du matériel et de l'immatériel dans le quotidien, oui. Ça.
Est-ce que ce serait possible une repolitisation de l'espace public? Est-ce qu'on pourrait retrouver ça?
Une repolitisation de l'espace public. Je vous dirais que parce que je suis une optimiste de nature, moi j'aurais tendance à vous dire soyons créatifs, puis acceptons. En fait, c'est tout à l'heure vous mentionniez la cohabitation cycliste-automobiliste, et ça crée du désordre. Je crois qu'il faudrait peut-être apprendre à vivre avec du désordre d'abord. Parce que
il y a déjà toute une rééducation à faire là.
Définitivement, d'être capable de cohabiter dans le désordre, dans peut-être la civilité. Ouais. Ça serait déjà peut-être le début de quelque chose là. Ouais. Mais comme je suis optimiste, je me dis il y a de belles initiatives qui vont certainement prendre racine, parce que de plus en plus on s'aperçoit qu'il y a des initiatives qui viennent d'en bas, et souvent c'est les initiatives qui évoluent le mieux puis qui s'adapte le mieux au fil du temps.
Faudrait expliquer ça à nos policiers, que le désordre n'est pas criminel. Ouais. On faudrait commencer par là.
Ouais, effectivement.
Alors, on va garder espoir. Merci beaucoup, Caroline Bolduc. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Alors, on arrive tranquillement à la conclusion de notre émission. Et j'ai perdu la feuille dont j'ai besoin parce que je voulais... Ah, voilà. Alors, je voulais faire une petite annonce avant de vous quitter parce qu'il y a une amie de Catalogne qui va nous quitter bientôt, qui va donner un très beau spectacle au Café Tam Tam le 9 avril à 20h. C'est Merci qui joue de l'accordéon. Je vous encourage tous à aller la voir. Et je remercie donc tout le monde qui a participé à l'émission de ce soir, à Gab Paquette pour la composition du thème de l'émission, à David, notre libraire et hôte, à mes invités, Renaud Pilote, Sébastien Bouchard et Caroline Bolduc, à mon collaborateur L'Homme qui a vu l'Homme pour la mise en onde et le choix des pièces musicales. Merci à Big Nick qui nous héberge et nous diffuse sur son site Radio Fiat Lux, où vous pouvez retrouver toutes les émissions de La Voix de la librairie en podcast. Et finalement, merci à CKIA qui diffuse nos émissions en rediffusion le mercredi à 15h30. C'était La Voix de la librairie à Québec.